Alors tout est vraiment vas-y, bien un point. Donc toi, philosophe pessimiste, tu ne sauras jamais quoi. Et c'est pourquoi vous avez en 7 grands paragraphes, à travers les 8 chapitres, c'est bien 8 chapitres, alors, vous avez, à travers 7 moments, l'Ecclésiaste va prendre toutes les hypothèses possibles, toutes les vanités, sauf peut-être la richesse. Il va démontrer que même la richesse, c'est vanité. Tout est vanité, vous savez la différence entre un dollar et un chèque. Un dollar. Vous pouvez être riche en chèque. Donc, et même la richesse, c'est vanité. Vous allez voir comment ça s'attache à roi à Jérusalem. C'est les mêmes moteurs, non? Un camion. Ou bien. Alors il dit, j'ai expérimenté cela, et même ça, c'est rêvé. On a commencé, pas dans l'ordre, mais on a commencé par la richesse. Même ça, c'est rêvé. Qui peut dire ça? Celui qui a vraiment été riche veut dire, vous savez, quelqu'un qui dit ça sur la vanité de la richesse, alors qu'il n'a jamais été riche, ça n'a pas de place. Tout cela, le Midrash nous dit, c'est dans Meir Yerushalayim. Il a été roi à Jérusalem, il a eu toutes les valeurs. Il était riche. Bon, deuxième hypothèse, toutes les vanités sauf la sagesse. Qui était plus sage que Salomon? Je schématise, mais c'est clair, on n'a pas de passer du temps là-dessus. Et ça, quand Salomon dit, même la sagesse, c'est vanité, c'est toutes les vanités, s'il manque cette clause dont on a parlé, au-dessous du soleil, toutes les vanités, mais sur le soleil, au-dessous, dans les marlas, dit le Midrash. Il s'agit de la Torah. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette expression. Alors, même la sagesse, c'est vanité. Parce que finalement, toutes les philosophies pessimistes se réservent un, comment dire, un quant à soi. Tout est vanité, sauf telle vertu, sauf telle valeur. Par exemple, le stoïcisme. Eh bien, le stoïcisme, tout est vanité, sauf la stoïcité. Sauf le fait d'être stoïque. Moi, j'ai l'habitude de citer une anecdote que j'ai vécue. J'ai eu un de mes professeurs de philosophie qui était existentiel. Il était capable de nous convertir à l'existentiel. Tout est absurde. Tout est absurde. Vous savez, quand un professeur de philosophie fait parler, il sait parler. Surtout quand il parle de l'absurde. Et alors, un jour, à la sortie du cours, on était en faculté. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelqu'un qui est brillant. Et ça fait des suicides à la longue, parce que ces jeunes philosophes, ils y croient. Je vous montre ça de façon absurde. Un jour, à la sortie du cours, j'ai surpris une conversation. Il parlait avec un collègue, il dit « Non, mais j'ai pas le temps maintenant, je vais aller chercher mon chèque. » C'est-à-dire, tout est absurde. Sauf le fait que le philosophe va chercher son chèque. À l'abri du chef, tout est absurde. C'est clair. Ça démystifie tout d'un coup. Il y a quand même, le ministère des Finances en France, c'est pas le même qu'ici. Et alors, deuxième hypothèse, la sagesse. Et bien, même la sagesse, c'est vanité. Si, on verra quel si. Et puis, vous pouvez imaginer par vous-même toutes les hypothèses de repli que l'on peut présenter dans ce problème. La gloire. Il a été roi. Le roi peut dire la gloire, si, en vous, la gloire non dit, comme ça qu'on a dit. Et etc. En fait, donc je reviens sur le raisonnement. Si vraiment, il faut admettre que le monde soit vanité, alors il est vanité vraiment. Et si le monde est vanité vraiment, on est perdu. Et donc, même si cette position de la philosophie pessimiste perd ses bases. Je ne sais pas si je vais arriver à éclaircir cela. Et c'est pourquoi, du dedans de ce doute absolu par méthode de la vanité du monde, l'Ecclésiaste fait surgir un optimisme radical. Non, tout a un sens, tout est lié. Voilà donc le thème que nous allons approfondir à travers le texte. C'est clair jusque-là? Bon. Alors je vais me baser sur un premier midrash que vous avez là. Vous allez voir comment est la page, mais regardez sur votre page. Vous avez le deuxième verset sur la page. Avez la valim, à Marcoele, avez la valim, à Colave. Ensuite, vous avez en caractère Rachid le commentaire de Rachid. Bon, ce n'est pas ce Rachid-là qu'on va étudier d'ailleurs. Puis vous avez Meler Yerushalayim. Après, vous avez un midrash qui commence par la lettre B. Akol, Harel, Havali. J'explique d'abord les termes.
Je vais mettre le verset.
Havel, c'est un singulier. Je termine en bas. Havel. Havel, c'est un singulier. Havel, c'est un pluriel. Vous suivez? Alors voilà ce qu'a dit le Midrash. Havel, ça fait un. Avalim, c'est au minimum 2. C'est répété avec Avalim une deuxième fois. Ça fait donc 3 et 3. Et à Kol Havel, ça fait 7. 3 et 3, 6, 15. 7. Donc il y a allusion à 7 vanités différentes. Vous voyez tout cela? Bon. Alors, prenons. Le verset est clair. Avec Avalim, vanité des vanités, ça fait 3 vanités. Avec un, avalim au moins deux. C'est répété, avec avalim, encore trois, ça fait six. À quoi avec toutes les vanités, ça fait six. Alors, les migrages, ils se suivent. Est-ce que j'ai fait le mal de tout le monde? Alors, on nous agit ceci, Tania en enseigne, David Amar. Le roi David avait dit dans les psaumes, Adam la révèle d'Ama, c'est le psaume 144. L'homme ressemble à un sou. En hébreu, le mot révèle signifie sou. Et c'est devenu au niveau après l'idée de radicaux. D'abord, Hevel, comme Hevel fait, c'est le signe de la bouche, souffle qui n'a pas de consistance. Ceux qui connaissent l'arabe, le mot analogue en arabe, c'est Hadal, qui a à peu près le même. Quelque chose privé de son. Et donc, le roi David avait dit l'homme ressemble à un souffle. Vélo tirage, les aider Hevel. Mais le roi David n'a pas expliqué à quel genre de soupe l'homme ressemble. Vous suivez le mélange. Je continue. Il me révèle chez le tanour. Si c'est le soupe d'un four, c'est-à-dire le soupe chaud qui sort d'un four, chez le kira ou d'un ancien four, il est bon à manger. Il y a une effectivité. Ça veut dire ce révèle, ce soupe qui sort du feu à un tafri, à une finalité, peut avoir une finalité, il peut chauffer une marmite. Donc ce n'est pas un réveil absolu, c'est un réveil qui a un mamache, qui a une effectivité. Bachelomo, ou Pirache, le roi Salomon est venu et a expliqué à quel souffle ressemble l'homme, à Hevel Havali, à un souffle de souffle. Alors, quand on s'approche un peu plus au contenu de l'expression vanité des vanités. C'est-à-dire, c'est une vanité des vanités, un souffle de souffle. Et c'est quoi? Alors, Midrash suivant. À quoi avait la vanité? Mai vire la radio, a ma radio sur Ben Kofra, qu'on en fait le monde radio sur Ben Kofra, vous suivez sur ça? Macha le Adam, chez... chez Chauffé, Chivra, Kudero, Zon le Mala Mizo, Vezo le Mala Mizo, Vezo et Sela Iona, et Bon Manage. Voilà. Voilà ce que dit le message. Ça ressemble à tout. Ça ressemble à un homme qui a installé sept marmites l'une au-dessus de l'autre. Et en dessous, il y a un feu. Alors le souffle qui sort du feu chauffe la première marmite. C'est un souffle qui a une effectivité, il chauffe la marmite. Le souffle qui sort de la première marmite chauffe la deuxième marmite. C'est un réveil, mais qui a aussi un sens jusqu'à la septième. Mais le souffle qui sort de la septième marmite, lui, c'est un réveil haradi, c'est un souffle. Voilà donc le raisonnement de l'Ecclésiaste. Si tu admets que le monde est vanité, sache que moi je t'attends à la vanité des vanités, et pas aux vanités partielles avec l'abri du chèque. Vous vous rappelez de ça? Avec l'abri de quoi que ce soit. Et alors, Rachid, lui, mais vous n'avez pas, le texte ici, Rachid, lui, dit que l'Ecclésiaste a fait allusion à cette vanité correspondant aux sept jours du commencement. Vous l'avez dans le Rashi ? Non, je ne sais pas. Vous avez dans le Rashi, Arel Avali, Amar Kohele. Kohele, Kohele Tabla Reomer, Al Kol Yitira Shiva Tine Bereshit, Chez Akol Arel, Chez Avali. Le midrash que, sur lequel se base Rashi dit aussi, c'est que l'heure de chacun des jours du commencement, le Shabbat y compris, on trouve un verset qui nous montre qu'à certaines conditions, cette heure va perdre sa valeur. Par exemple, le jour du Shabbat, Mechalelea Yom Motuma. Ça veut dire que le monde est plein de valeurs, mais ce sont des valeurs qui se perdent elles-mêmes, qui peuvent se perdre elles-mêmes. J'ai longtemps réfléchi à l'analyse de ce midrash. Voilà l'explication que je vous propose et qui nous semble expliquer à la fois l'ensemble de ce midrash. L'histoire du monde nous est présentée par le récit de la Torah comme la succession d'étapes, chaque étape menant à une étape suivante. Donc on est occupé au moment historique d'une étape X et qu'on n'a pas la vie de l'étape qui viendra après, alors on est pris par ce sentiment d'angoisse pessimiste que peut-être ça sert à rien, parce qu'on ne voit pas à quoi ça va servir. En d'autres termes, le premier jour, je sais à quoi il sert que si je suis dans le deuxième. Quand je suis dans le deuxième jour, alors le premier jour a pris son sens, parce que le premier jour a mené au deuxième jour. Le troisième jour, c'est la même chose. Le troisième jour donne un sens au deuxième et au premier. Est-ce que c'est clair? Celui qui est à la pointe de l'histoire, et qui n'a rien devant lui, lui peut dire qu'il est à la septième marmite, le souffle qui sort et qui va nulle part, qui va en air. C'est là que le roi Salomon définit dans l'Ecclésiaste ce que serait la véritable philosophie pessimiste. C'est-à-dire celui qui a expérience que tout son être est au passé et qu'il n'y a aucun avenir. C'est-à-dire celui qui n'a pas l'expérience, la perspective, la dimension messianique. Ça veut dire que si les sept jours du commencement ne mènent pas à un huitième, alors tout est vanité. Le septième est compté. Mais si le septième mène à un huitième, rien n'est vanité. Tout est compté et tout est jugé parce que chaque étape mène à la suivante. Et ça se récapitule un jour dans l'autre. Voilà, je crois, l'essentiel de ce qu'il faut comprendre. Donc vous voyez que quelle est la méthode de l'Ecclésiaste? Comment il contredit la philosophie pessimiste? En prenant au sérieux le postulat de la philosophie pessimiste, en le poussant à la totalité du doute, si j'ose dire. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un parallèle à faire sur la méthode du doute chez Descartes. D'ailleurs, c'est que le doute n'est sérieux que s'il est total. Et que pour sortir du doute, il faut sortir d'un doute total. Là aussi, c'est assez analogue. Je ne sais pas si Descartes a lu l'Ecclésiaste, mais ce que je peux dire, c'est que l'Ecclésiaste n'a pas lu Descartes. En tout cas, ça veut dire que si on se situe à un septième jour qui n'aurait pas de huitième, alors vraiment tout est privé de sens. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a le doute total. Et par conséquent, on voit bien que les midrashim veulent nous mettre en évidence précisément ce qui se passe entre Hoshana Rabba et Simchat Torah. Donc c'est clair. Et ça vous fera comprendre la suite des midrashim. Par exemple, sur le verset qu'on a cité, En Hadash Tahata Shemesh, Aval le Marla Me Hashemesh, Yesh Hadash. Le Marla Me Hashemesh, Yesh Yitrenu. Il n'y a pas de surplus à l'effort de l'homme sous le soleil. Mais au-dessus du soleil, il y a un chiffre. Vous voyez comment il faut se dégager du langage pastiche de la vie auquel on est tellement habitué. Il y avait un nouveau sous la calotte des cieux, je ne sais pas comment on traduit certains textes, un nouveau sous le soleil, alors que le texte voulait dire plus contraire. C'est la fête du contraire. Je dis quelque chose de beaucoup plus ample. Sous le conditionnement de l'être de nature, il n'y a effectivement pas de dégagement d'espérance, mais au-delà de retrouver notre langage, ça veut dire que le septième jour mène à un huitième. Ce qui est toujours, d'après dans la symbolique de la tradition, le jour messien. Donc je crois que je vais vous dire un peu l'essentiel. La différence entre Shmira Torah, qui s'appelle Simchat Torah, et Matan Torah, à Shavuot, c'est le fait qu'à Shavuot, la Torah a été reçue a priori de l'expérience de la croix. Alors qu'à Simchat Torah, on va recevoir la Torah, mais a posteriori de l'expérience de la croix et que le repentir est pour ça. Et c'est pourquoi là, la Torah est reçue des Simcha, dans la joie. Alors que dans Matan Torah, elle est donnée dans Midat Hadin. Bien sûr, on fait une fête à Matan Torah. Mais à Matan Torah, la Torah est donnée. À Simchat Torah, est reçue. Elle est acceptée. Et je vais terminer en reprenant ce parallèle que nous avons vu dans le calendrier. Comme nous l'avons vu, c'est le festival, c'est d'une certaine manière le huitième jour de Pessah, mais décalé de festival. Après le festival, où il y a eu la promulgation des 10 commandements, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Le 39e jour, le peuple s'est rassemblé pour obliger Aaron à faire l'idole du veau. La veille du 17 Tammuz, c'est le 16 Tammuz. Et normalement, s'il n'y avait pas eu cette catastrophe de la faute du veau d'or, le 17 Tammuz aurait été un jour de grande fête. Ça aurait été Simchat Torah, c'est-à-dire le jour de la Kabbalah Torah, de la réception de la Torah. Matan Torah, c'est 6-6-20, 40 jours après, la Torah aurait été reçue. Elle a été donnée. 40 jours avant, le festival, son jour, il aurait été reçu, le 17 août, c'est vrai qu'il fête. C'est ce que dit d'ailleurs le texte, qui est dans la référence de la paracha de Kitifa, un verset qui s'est resté assez mystérieux, mais quand Aaron dit au peuple qui se rassemble contre lui pour l'obliger à faire une idole, il dit Hag Lachem Maha. La fête pour Hachem, c'est demain. Le lendemain, c'était le 17 août. Le 40e jour, Moïse devait redescendre de la montagne avec les tableaux petit à petit. Or, cette catastrophe de la fête du Véleur a reculé les 240 jours la réception de la fête. Comme vous savez, 40 jours après, pendant 40 jours, Moïse a prié pour que le peuple soit pardonné, il y a un sujet pour lui-même, la partie du peuple qui avait fait.